religion du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en Dordogne, dans le sud de la France, à la rencontre de Mathieu Ricard, moine bouddhiste, écrivain, photographe, traducteur en français du Dalaï Lama, qui a passé plus de 50 années de sa vie auprès de ses maîtres spirituels dans l'Himalaya, entre le nord de l'Inde, le Bhoutan, le Népal et le Tibet. Né en France en 1946 dans une famille d'intellectuels, son père, le philosophe et journaliste Jean-François Revel, et sa mère, la peintre Yann Le Toumelin, Mathieu Ricard, alors jeune docteur en génétique cellulaire, décide de s'installer auprès de ses maîtres et de prendre les vœux monastiques pour se consacrer à la méditation et à l'étude du bouddhisme tibétain. Sous un arbre devant la maison de sa mère, qui partage sa foi, auprès de laquelle il veille depuis le début de la pandémie de Covid, il me reçoit au son des cigales en cette belle journée d'été.
Ben voilà, nous sommes sous, je ne sais pas ce qu'on appelle comme arbre, là, ça a l'air d'être un petit chêne. En Dordogne, sur une petite colline. Nous sommes à 130 mètres d'altitude. Ce n'est pas l'Himalaya, mais voilà.
Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour cher ami.
Merci de nous recevoir ici en Dordogne. Une nouvelle atmosphère qui change bien des montagnes himalayennes que vous aviez lorsque vous êtes arrivé en 1967 pour la première fois, pour votre première immersion chez vos maîtres bouddhistes.
Effectivement, oui, il y a la même tranquillité, mais pas le même paysage. Au Népal, où je vis, mon petit ermitage est à 2000 mètres et je découvre devant moi à peu près 200 km d'Himalaya avec 4 pics dépassant les 8000 mètres. Donc c'est un tout petit peu différent, mais la tranquillité est la même. Et je suis là temporairement pour m'occuper de ma maman qui a 99 ans. Et c'est le moment d'être auprès d'elle.
Mathieu Ricard, vous écrivez dans votre livre « Carnet d'un moine errant » que vous êtes né en 1967 lors de votre premier voyage dans l'Himalaya, donc à Darjeeling, lorsque vous avez rencontré votre premier maître. Qu'est-ce que ça veut dire cette renaissance, cette nouvelle vie ?
Oui, j'ai quelqu'un qui m'a dit « tu t'es trompé sur ta date de naissance ». J'ai hésité un peu parce que ça fait un peu « born again », vous savez, le mouvement évangéliste, quand vous êtes baptisé, vous êtes rené.
Parce que vous aviez déjà 21 ans.
Oui, c'est vrai, exactement. C'est un gros bébé, disons. En gros, ce que ça veut dire, c'est que j'ai enfin trouvé le sens d'une direction dans l'existence. Jusque-là, adolescent, comme souvent les jeunes hommes et femmes, on cherche un petit peu des modèles dans la vie. En tout cas, je savais que je ne voulais pas que ma vie soit, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens.
Vous aviez commencé par une carrière scientifique, puisque vous avez étudié la biologie. Donc, c'est quelque chose de très pratique, de très concret.
Oui, alors je voulais être médecin d'abord, chirurgien, même depuis le tout petit. Mais mon père m'a dit, il y a plein de médecins, plein de chirurgiens. La biologie, c'est la science de l'avenir. Je voulais faire de la physique aussi, mais maintenant, il faut faire de la biologie. C'est la seule fois où je l'ai vraiment écouté. Mais donc, voilà. Mais je n'étais pas encore entré à l'Institut Pasteur. J'étais sur le point de. J'ai fini mes certificats d'université. Et à ce moment-là, j'ai vu un documentaire en cours de montage fait par mon ami, enfin l'ami de mes parents, Arnaud Desjardins, qui s'appelle « Le message des Tibétains ». Il avait passé 6 mois en Inde à rencontrer tous ces grands sages, hommes et femmes, qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet. Il était aidé d'un interprète qui avait été fourni par le Dalaï Lama. Et depuis le Bhoutan, presque jusqu'au Cachemire, il a rencontré tous ses maîtres et fait ce documentaire merveilleux. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « mais c'est pas possible, il y a 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, vivants aujourd'hui ». Et j'y vais, quoi. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques. J'avais 6 mois de vacances avant de rentrer à Pasteur. Et puis, voilà, je suis parti en Inde. Je parlais à peine anglais parce que mon père avait la bonne idée de me faire apprendre le grec ancien, le latin, l'allemand, qui ne m'ont pas beaucoup servi par la suite. Mais je me suis quand même débrouillé. Je suis arrivé à Darjeeling après 2 jours et 3 nuits de train. Et là, j'ai rencontré, effectivement, plusieurs maîtres, dont particulièrement Kangyo Rinpoche. Et en arrivant à sa présence, extrêmement d'une simplicité extraordinaire, mais en même temps, une qualité d'être, je ne sais pas, c'est difficile à décrire, toujours les mots manquent, mais une sorte de paix, de solidité. Il était à la fois comme une montagne, mais une montagne pas qui vous écrase, mais une montagne de bienveillance, de sagesse, de présence tranquille. Les moments passaient dans cette espèce de silence extraordinaire. On avait l'impression qu'on avait envie de se mêler à l'ensemble de ces personnes. Son épouse était une femme d'une... Elle souriait rien que des yeux, tellement elle avait un regard rempli de bonté. Enfin, c'était une atmosphère tellement, je dirais, réconfortante, apaisante et surtout un mélange de sagesse et de bienveillance. Je me suis dit, voilà, si quelqu'un peut devenir comme ça, indépendamment de tout ce qu'il pouvait savoir sur le bouddhisme, à l'époque je ne m'intéressais pas particulièrement au bouddhisme, si un être humain peut devenir ce qui pour moi représentait la perfection humaine, ça vaut la peine de marcher sur ses pas, de voir comment ce qu'il a fait, et peut-être s'il est arrivé à être un centième de ce qu'il est, là ça vaut le coup. Donc voilà, je suis rentré à Pasteur, et puis j'ai fait cet aller-retour jusqu'à la fin de ma thèse.
Vous êtes revenu en France, vous avez fait vos études, vous avez travaillé avec François Jacob, prix Nobel de médecine, et puis vous êtes diplômé et là, vous décidez finalement de tout plaquer et de retourner auprès de ce maître que vous aviez découvert à Darjeeling. Qu'est-ce qui vous a fait basculer, faire ce choix ?
Ça peut paraître dramatique comme changement de passer de l'Institut Pasteur et d'un appartement parisien à un petit ermitage de 9 mètres carrés sans eau, sans électricité, sans chauffage, etc. Mais en fait, c'est pas un saut dans l'inconnu, c'est pas une décision absolument. On se réveille le matin, je pars. C'est plutôt un mûrissement lent et heureusement que justement que j'ai pris ces 6 ans de temps de mûrissement pour ne pas faire une décision prématurée. Ça aurait été, à mon avis, une erreur. Et mon père, qui m'ont éduqué, qui ont fait des sacrifices pour moi, m'en aurait voulu. Et François Jacob, qui venait juste de m'embaucher, je pars au bout de 6 mois. C'est pas sérieux, quoi. Et puis, j'avais une sorte de responsabilité vis-à-vis de tout ça. Donc, et c'était beaucoup mieux comme ça. Donc, j'ai fait 6 ans de thèse, de recherche, en allant chaque été à Darjeeling auprès de Kangyur Rinpoché. Donc là, les choses avançaient tout doucement.
Lui-même, Kangyur Rinpoché, vous avez dit qu'il fallait mûrir votre décision. Vous avez dit aussi de ne pas vous précipiter.
Il m'a dit, c'est bien de terminer ce qu'on a entrepris et après, tu verras, le moment sera venu. Donc effectivement, c'était très sage comme conseil. Au fur et à mesure que je retournais là-bas, je me rendais de plus en plus compte que effectivement, ça comptait, c'était devenu au centre de ma vie, de mes préoccupations, de ce qui me passionnait, de ce que j'avais envie de faire. Je pensais faire des recherches sur la division cellulaire d'une bactérie, du colibacille. Bon, c'est formidable, mais si vous voulez, pour moi, savoir comment devenir un meilleur être humain, je pensais que ça m'intéressait un peu plus dans l'immédiat. Donc, quand j'ai fini ma thèse, j'ai dit à François Jacob, qui s'en doutait un peu, que finalement, j'allais faire mon postdoc dans l'Himalaya. Mais j'ai publié tous les papiers, tout le monde était content, on a fait la thèse, on a bu un pot. J'ai une seule photo de 6 ans à l'Institut Pasteur avec 2 laborantines, mais on ne faisait pas des photos à tout bout de champ.
Non. Et votre père, comment a-t-il pris la nouvelle ?
Alors mon père...
Jean-François Revel.
Oui, donc mon père, alors j'ai appris ça en marchant dans une forêt. Alors d'abord, il y avait un silence pesant. Ensuite, il a dit, mais comment tu vas vivre ? J'ai dit, bon, on verra bien. C'est vrai que j'ai vécu avec 3 fois rien. Je vois l'équivalent de 50 euros par mois pendant quelques années. Il a eu la grandeur d'âme de ne pas faire de drame. Moi, j'ai horreur des drames. Mais je sais par son ami Olivier Todd que quand mon papa était mourant et son grand ami était là, on était tous les deux à son chevet pendant quelques jours, au Kremlin-Bicêtre. Il m'a dit, tu sais, quand il a annoncé que tu partais, il est venu chez moi et il a pleuré. Donc, ça lui a quand même... Il cachait ses émotions, mais ça lui a fait quelque chose. Et puis, comme il a dit plus tard, quand on a fait notre dialogue... Il dit, Mathieu avait 26 ans, c'est un adulte, il peut faire ses choix de vie. Et puis après, il a vu qu'il est venu me voir à Darjeeling, donc il a vu que je ne fumais pas la moquette et que tout allait bien. Et donc, il a été rassuré. Il a rencontré Kangyur Rinpoché, ce dont je me réjouis beaucoup. Et puis, peu à peu, j'ai commencé après à imprimer des livres, des textes anciens. Je suis interprète du Dalai Lama. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que des parents peuvent souhaiter de mieux pour un enfant, qu'il soit heureux de faire ce qu'il fait. Il y a tellement de parents qui se désolent. Leurs enfants sont déprimés, qui parlent dans tous les sens, J'étais bien content et du coup, et voilà, ça va.
Le bouddhisme, pour vous, ça a été la voie que vous avez trouvée dans votre vie. Qu'est-ce que c'est le bouddhisme pour vous? Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs?
Oui, alors si vous voulez, au début, c'était vraiment le fait d'avoir ces personnes de cette qualité-là. Au début, c'était vraiment, ils me donnaient des conseils de pratiques contemplatives, de vie spirituelle, qui étaient bien sûr du bouddhisme. Mais si vous voulez, je n'ai pas appris la philosophie bouddhiste dès le départ. Pour un certain nombre d'années, quand Jean Rinpoché m'a dit « Maintenant, ça serait bien que tu étudies un peu, comme je commençais à apprendre le tibétain, parce que ça te permettra de clarifier beaucoup de concepts, de dissiper des hésitations ou des doutes. » Donc, je me suis mis à étudier. Donc, j'ai vu l'incroyable richesse de ces textes philosophiques. Mon maître avait amené 50 ballots de livres. C'est la seule chose qu'il a amené, c'est des livres. C'était si important.
Dans des grandes sacoches en cuir.
La pièce était toute petite, elle devait faire 4 mètres sur 4, mais il y avait 50 cm d'épaisseur du plancher jusqu'au plafond tout autour de ces livres. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est la littérature classique la plus riche après le chinois et le sanskrit, avant même le japonais. Et donc, c'est en grande partie des textes philosophiques. Donc quand j'ai découvert ça, évidemment, c'était une immense richesse et qui, pour moi, m'a toujours apporté une immense satisfaction intellectuelle et je continue encore à étudier maintenant.
Est-ce que le bouddhisme, c'est une religion ou c'est une philosophie?
C'est ça, je n'ai pas répondu à votre question finalement. Mon père me l'a posé aussi. Le Dalai Lama répond de cette façon. Il dit, voilà, les philosophes disent non, c'est une religion. Les religions, surtout les religions du livre, les théistes disent, ah non, ce n'est pas une religion, il n'y a pas de Dieu créateur. Donc il dit, pauvre bouddhiste, il se retrouve assis entre deux chaises. Mais, dit-il, ça peut permettre de faire un pont. Donc en gros, c'est les deux, mais c'est surtout et essentiellement un chemin de transformation. Qui a des éléments religieux, qui a des éléments philosophiques extrêmement profonds. Pour passer de l'ignorance ou de la confusion mentale à la connaissance, c'est le but principal, et ce faisant, passer d'une addiction aux causes de la souffrance, être pris dans le manège incessant et sans cesse répété de la souffrance et de ses causes, et de s'émanciper des causes de la souffrance. Donc, c'est deux processus qui vont ensemble. Et ce, non pas seulement pour son propre bien, mais pour celui de tous les êtres. Donc, l'idée, c'est d'atteindre à l'éveil, c'est-à-dire à la connaissance parfaite, à se libérer des causes de la souffrance, pour acquérir la capacité aussi de se mettre au service des êtres. Donc c'est ça un peu l'idée du bouddhisme. Et après ça, tout se met en place autour de ces grands axes.
Mais comment on arrive à atteindre cette perfection qui est de s'émanciper de soi pour aller vers le bien des autres? Vous parlez de l'altruisme, vous parlez de la compassion, l'empathie.
Alors l'oubli de soi, ça fait un peu, disons, ces termes assez psychologiques. Ça fait un peu développement personnel. En fait, tout ça est basé sur une juste compréhension de la réalité des choses. Et un des principes du bouddhisme, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Si vous pensez qu'effectivement, qu'il y a un moi, qui est une entité autonome, qui est solide, qui vous définit, que je suis le petit Mathieu que j'étais, c'est le Mathieu âgé maintenant, mais il y a quelque chose qui n'a pas bougé, qui est le cœur de mon être, à ce moment-là, il faut le protéger, il faut le satisfaire. Donc tout tourne, il y a moi et les autres, un fossé presque infranchissable entre moi et les autres, une dichotomie. Du coup, attraction pour tout ce qui peut favoriser ce moi, répulsion pour tout ce qui ne le favorise pas, qui mène en gros attraction au rejet, tous les autres poisons mentaux que sont l'orgueil, la jalousie, le manque de discernement, l'obsession, la haine et à la souffrance. Donc ce n'est pas juste une idée philosophique, une idée fausse. Se réifier le moi amène à la souffrance. Donc vous voyez la démarche du bouddhisme. Quand j'ai dialogué avec Trinh Van Thuyn sur l'astrophysique.
Un cosmologue vietnamien.
Il a écrit des livres magnifiques et on a fait notamment un livre qui s'appelle L'infini dans la paume de la main. Donc si vous voulez, on est arrivé à l'idée que l'interdépendance était vraiment, aussi bien du point de vue de la physique, notamment de la physique quantique, la globalité des phénomènes, l'interdépendance était au cœur de la... décrivait le mieux la réalité. Mais pour un pratiquant, si l'impermanence... Vous êtes habité par ce concept et ainsi que celui de l'interdépendance, ben vous n'allez pas vous attacher à outrance à votre montre, à votre maison, à votre propre corps qui change tout le temps. Il ne faut pas que ça change, il ne faut pas que ces relations humaines changent, ce n'est pas possible, il faut que ça reste comme ça. Du coup, c'est de la frustration et de la souffrance. Si on comprend l'impermanence, ben la mort, c'est un moment de la vie, c'est un processus normal. Bon, c'est triste, bien sûr, ça peut être dramatique, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose d'aberrant qui ne devrait pas être. Il n'y a pas une révolte contre le cours des choses.
Vous avez passé des années auprès de votre maître, le premier maître que vous appelez votre maître racine, Kangyur Rinpoche. Qu'est-ce que c'est qu'un maître racine ?
Alors, si vous voulez, on peut recevoir des enseignements de nombreux maîtres qualifiés, bien sûr, pas des charlatans. Et moi, j'ai reçu des enseignements d'un certain nombre de maîtres, mais le maître racine, c'est celui qui vraiment, la première fois, vous amène sur le chemin. Et tout particulièrement celui qui vous donne les transmissions les plus profondes, notamment qui vous introduit à la nature de votre propre esprit. Quelle est la nature de l'esprit? Au fond du fond, derrière le rideau des pensées, qu'est-ce que c'est que cette présence éveillée qui est toujours là? Cet aspect fondamental de la conscience, c'est quelque chose qui est vital dans la pratique du bouddhisme. Et donc le maître qui vous amène à cette compréhension, qui vous transmet les principaux enseignements, celui auquel vous êtes relié le plus par votre cœur, celui que vous évoquez quand vous pensez à votre maître et vous voulez être inspiré, on appelle ça le maître racine. Ceci dit, j'ai le même immense respect pour d'autres maîtres que j'ai connus après la mort de Kangyur Rinpoche, notamment quelqu'un qui s'appelait Dilgo Khyentse Rinpoche. J'ai vécu 13 ans auprès de lui, il était très proche de mon premier maître. Et là, je pourrais dire que j'étais encore plus proche parce que j'étais un de ces, comment dire, un moine qui s'occupait de lui. Donc, je dormais par terre dans sa chambre parce qu'il était âgé. Je recevais tous ses enseignements. Je l'ai accompagné au Tibet 3 fois, enfin, dans le monde entier. Donc, je veux dire, j'ai partagé sa vie pendant 13 ans, reçu tous ses enseignements, donc extrêmement proche. Donc, je peux dire que c'est aussi mon maître racine. Ce n'est pas une exclusivité comme un contrat de mariage.
Mais vous parlez de dévotion quand même envers votre maître. Ce n'est pas une béatitude, mais il y a quand même une admiration. En quoi ça consiste cette dévotion?
Alors c'est vrai qu'en Occident, maître spirituel, gourou, dévotion, c'est extrêmement suspect. À juste titre, parce qu'il y a tellement de charlatans qu'il vaut mieux se méfier. On dit d'ailleurs qu'il faudrait examiner un maître spirituel pendant 12 ans avant de se confier à lui, ça fait un peu long quand même, et qu'il doit aussi examiner un disciple pendant 12 ans, voir s'il est qualifié. Donc, vous voyez, d'abord de loin, puis de plus près, puis de très près, pour ne pas tomber dans les mains de n'importe qui. Alors, oui, dévotion, c'est plus que le respect, c'est un élan du cœur vers quelqu'un où j'ai une telle admiration. L'admiration, c'est comme l'émerveillement, c'est quelque chose qui vous élève. Ce n'est pas une exaltation, mais c'est plus grand que vous. Ça vous ouvre le cœur à l'ensemble des êtres, de l'univers. Ça fait venir à la surface le meilleur de vous-même. Et donc, c'est un mélange d'admiration, d'un modèle, on peut dire un amour, on aime son maître spirituel, mais qui est de reconnaissance aussi, de réjouissance d'avoir rencontré une telle personne, d'avoir reçu des enseignements aussi précieux. En fait, c'est une immense gratitude et aussi une forme de respect pour tout ce qu'on n'a pas encore accompli, réalisé, compris. Par exemple, la dévotion pour le Bouddha, c'est de se dire, voilà, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un dieu incarné, ce n'est même pas un saint, c'est un être éveillé. Donc, son éveil, c'est un idéal. Donc c'est normal que j'ai un immense respect, une immense aspiration, une sorte de souhait intense de progresser dans cette direction. Donc cet élan, on appelle ça dévotion, mais en fait, le mot tibétain, me gu, veut dire aspiration respectueuse. Donc c'est un respect fervent pour marcher sur ses pas, s'inspirer de ses qualités, et autant que possible. Le Dalai Lama dit souvent, la foi ou la dévotion, ça n'a rien à voir qu'une foi aveugle. Je ne connais pas aujourd'hui l'ensemble des qualités du Bouddha ou de Kangyur Rinpoche, mais je sais que je peux y arriver, et la possibilité existe. J'ai des témoignages indirects de cette perfection humaine par la façon dont ils agissent. Hein. Quand vous passez 13 ans auprès de quelqu'un et que vous n'êtes jamais témoin d'une seule action, d'une seule parole, ou soupçonner une seule pensée qui puisse un tant soit peu nuire à quelqu'un, on se dit, bon, là, il y a une cohérence quand même. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui font qu'une sorte de vérification sur le long terme. On ne trouve pas de défaut dans la cuirasse, contrairement à ce qui se passe avec des charlatans où c'est joli devant, mais ce n'est pas très beau derrière.
Avec votre deuxième maître, vous avez pu réaliser de nombreux voyages, donc au Bhoutan, le Népal et puis le Tibet en 1985.
Oui, alors c'est vrai que tous les grands maîtres tibétains, une bonne partie avaient pu prendre refuge en Inde. Mais c'est vrai que le Tibet, bon, c'était un endroit mythique, je pensais, je n'étais pas sûr de pouvoir y aller. Il faut dire aussi que le Tibet était totalement fermé entre 1959, l'invasion du Tibet, jusqu'au début des années 80. La mort de Mao Tse-tung en 79, il n'y a pas un voyageur, pas un journaliste, pas un observateur étranger qui soit rentré au Tibet. Je me rappelle en 1980, une lettre est arrivée d'un Tibétain à sa famille en Inde. Une lettre, la première fois depuis 20 ans qu'une lettre arrivait du Tibet, vous vous rendez compte? Elle a été photocopiée partout, moi je l'ai vue, elle est arrivée chez Kensei Rinpoche. Une lettre est arrivée du Tibet. Donc c'était une sorte de mur, c'est pas le rideau de fer, c'est le mur du silence.
Et la répression avait été terrible.
Et un génocide silencieux, puisque quand même 1 million de Tibétains sur 6 sont morts, mais c'est passé à l'as, parce qu'il y avait des fosses communes, auprès des camps de travaux forcés. Mais vraiment, personne n'a documenté ça. Simplement, après, statistiquement, quand ils ont demandé partout aux familles, causées par du camp, combien de personnes, etc., ça fait à peu près 1 million de morts sur ces 20 ans. Pas forcément des massacres au début, il y a eu quelques morts au moment de l'invasion, mais surtout de famine, d'épuisement. La plupart des hommes ont passé 20 ans en camp de travaux forcés, où ils étaient à peine nourris, ils mouraient de maladie, de froid, etc. Donc si vous voulez aller au Tibet, c'était un peu un rêve. Donc en 1985, Kensei Rinpoche, qui vivait principalement au Bhoutan, et qui était très proche du roi du Bhoutan, qui était son disciple, a demandé s'il pouvait, le roi du Bhoutan pouvait intervenir auprès du gouvernement chinois pour qu'il puisse retourner dans son pays natal, dans l'est du Tibet. Les Chinois, qui avaient un peu des bisbis sur la frontière avec le Bhoutan pour lui faire plaisir, ont accepté. Donc il y a eu une délégation officielle bhoutanaise où il y avait 3 Bhoutanais, 7 Tibétains et 1 Français. Donc là, ils n'ont pas trop compris. Et j'ai pu aller donc avec lui en 1985 dans des régions du Tibet où ils n'avaient jamais vu un occidental, un étranger. Ils pensaient que j'étais indien. Et c'était quand même assez extraordinaire. Et là, un accueil absolument... On arrive une fois en haut d'un col, on débouchait, on allait vers un monastère, il y avait 1000 cavaliers qui nous attendaient. Vous voyez, c'était, pour eux, c'était comme si le soleil se levait de nouveau après 30 ans d'oppression. Ça commençait à s'ouvrir un peu après la mort de Mao Tse-tung. Il y a une forme de renaissance. Et c'était extraordinaire qu'un maître de ce calibre puisse revenir au Tibet. Donc pendant 3 mois, il a été accueilli partout, il a donné des enseignements. Enfin, c'était tellement intense, émouvant, les gens étaient en pleurs, ils venaient le voir, ils lui racontaient ce qu'ils connaissaient d'avant. En quelques minutes, il leur disait voilà, qui était vivant, qui était mort, qu'est-ce qui leur était arrivé. Alors il réconfortait tout le monde, enfin, c'était extraordinaire. Et puis en tout, après ça, je suis allé plus de 20 fois au Tibet, donc maintenant c'est un peu plus difficile mais à cause de la situation politique. Mais j'ai pu y aller 20 fois et notamment, à partir de 1999, commencer des projets humanitaires. Nous avons construit avec Karuna cette chaîne qui n'existait pas encore à l'époque, mais c'était la continuité de ça.
Donc l'association humanitaire que vous avez créée?
C'est ça, je l'ai créée en 2000, mais elle a officiellement existé en 2004. Déjà, on avait fait 40 projets au Tibet. En tout, on a fait 25 dispensaires, 25 écoles, 18 ponts, des endroits pour les personnes âgées. Donc on a commencé au Tibet. En tout, on a fait 80 projets, tout ça sous le manteau, parce que voilà, personne ne reliait les différents projets, on était très discrets. Et puis maintenant, donc, on a surtout nos activités en Inde et au Népal. Et aujourd'hui, on aide 500 000 personnes par an, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, etc.
Lorsqu'en 1991, votre maître spirituel décède, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur vous? Il y a une tristesse. Qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, c'était la deuxième fois, parce que mon premier maître, quand j'ai embauché, il m'a en 1975. C'est un peu comme si le soleil disparaît du ciel, et en même temps, il est partout. C'est-à-dire qu'il n'est plus là physiquement. Mais alors c'est pas une obsession, hein, c'est pas ce genre de choses, c'est qu'il est présent dans notre cœur et nos pensées. Donc où qu'on regarde, finalement, il est toujours là. C'est plus qu'un être cher qu'on regrette avec nostalgie, c'est quelqu'un qui continue à vous inspirer par son souvenir, par ses enseignements, par tout ce qu'il vous a donné. Il y a une immense gratitude d'avoir pu rencontrer quelqu'un comme ça.
Moi, qu'est-ce qu'il vous raconte?
D'avoir fait des portraits de lui. Parce que finalement, à part les enseignements écrits, c'est un peu le meilleur témoignage. Moi, j'ai vu des gens qui, en regardant un visage de ces maîtres, ça les a profondément inspirés à vouloir rencontrer certains d'autres. Pour moi, il est toujours dans mon cœur, ça ne change pas. Et puis là, physiquement, ça fait quand même une différence. Il y a une immense tristesse, mais c'est pas... On s'est dit, ah, quelle chance j'ai eu de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça, c'est surtout ça.
Quelles sont des phrases qu'il vous a dites, que vous gardez très particulièrement dans votre cœur?
Vous savez, c'est très vaste l'enseignement, mais en gros, c'est quand même, d'une part, ne pas se laisser prendre par les préoccupations mondaines, c'est-à-dire le gain et la perte, le plaisir et le déplaisir, la renommée et l'anonymat, la louange et la critique, d'aller à l'essence, extraire la quintessence de la vie humaine, pas de la dilapider comme si ça avait aucune valeur, parce que elle peut paraître longue, mais en fait, elle passe comme un geste. Moi, j'ai 76 ans, j'ai l'impression que je suis en droit de l'université. Je n'ai pas eu d'enfant, je ne suis pas grand-père. Donc pour moi, c'est en ligne droite, ça passait très vite. Et ce qui me reste à vivre va passer tout aussi vite. Donc, comment est-ce qu'on utilise au mieux cette vie humaine? Qu'on essaie de la quintessence? Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse ou on est obsédé par gagner de l'argent ou de devenir célèbre? Ou est-ce qu'on essaie de se libérer des causes de la souffrance et de se mettre au service des autres? C'est quand même des priorités. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un, c'est comme le pôle Nord qui oriente votre compas.
La boussole.
Et cette boussole, elle reste. Donc ça, c'est le plus grand chose. Puis, rappeler ses qualités, évoquer ses qualités, c'est une source d'inspiration constante. J'ai un rôle de passeur, si on peut dire, avec mes amis ici du comité de traduction Padmakara, depuis 30 ans, nous traduisons des textes fondamentaux, non seulement des textes philosophiques, mais des textes aussi liés à la pratique spirituelle ou des biographies de grands maîtres. J'ai traduit une biographie de 1000 pages pour mettre à disposition d'un public occidental dans différentes langues, en français, en anglais, en espagnol, des textes inspirants, importants de cette littérature. Donc il y a aussi une idée de préserver cet héritage. J'ai photographié 40 000 documents sur l'art himalayen, tibétain principalement, mais aussi au Bhoutan, que j'ai mis à disposition de tous les musées ou des personnes qui souhaitent les avoir. On a imprimé 400 volumes de textes dans notre monastère, dont j'étais en charge de ces projets. C'est aussi l'idée de la préservation de cet héritage si précieux.
Alors en 1997, vous publiez un livre de conversation avec votre père, Jean-François Revel, Le moine et le philosophe, qui est un succès incroyable. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a été un moment de bascule dans votre vie?
Oui, alors là, pour le moins qu'on puisse dire. En gros, ce qui s'est passé, bon, on venait d'avoir un téléphone au monastère. À l'époque, il fallait donner des bakchiches pour avoir un téléphone. Et je reçois un coup de téléphone d'une éditrice parisienne qui me dit « Est-ce que vous voudriez faire un livre de dialogue avec votre père ?» Je dis « Ah, vous rigolez ? Mon père, Jean-François Revel, agnostique, le connaissant comme polémiste, je lui dis « Un dialogue avec un moine bouddhiste, c'est pas de mal à veille, même si c'est son fils. » Et puis, ils l'ont invité à déjeuner, ce que mon père refusait jamais. Et au moment du dessert, ils lui ont dit « Est-ce que vous faites un dialogue avec votre fils ?» Et là, il s'est arrêté bouche bée, paraît-il, la poire lui est tombée de la bouche. Il a dit « Je ne peux pas refuser. » Donc, ils m'ont rappelé. Et j'ai dit « Oh là là, maintenant, ça y est, c'est un problème. » Parce que je vais me faire passer au rouleau compresseur. Donc, j'ai dit « Ben, fort de mes antécédents de joueur de foot, je joue à domicile, il vient. » J'ai demandé conseil à l'abbé du monastère. Il m'a dit « Vous savez, je n'ai pas trop envie de faire ce truc-là, parce que ça va être que des complications. » Il m'a dit « Non, c'est très bien, il faut... » Voilà. Bon, donc, on l'a fait. C'était très sympathique. On a passé 10 jours au-dessus de Katmandou, dans un resort. On a enregistré, on a transcrit. 3 mois plus tard, le livre sortait. Et effectivement, donc, je suis venu en France. Nicole Lattès, ma chère éditrice de toujours, elle vient d'arranger les choses. Et en 3 semaines, on n'a pas arrêté dans les télés, les radios, les machins. Donc, vous êtes totalement inconnu au bataillon la veille. Et puis, brusquement, on vous reconnaît dans la rue le lendemain, ce qui montre aussi le côté parfaitement artificiel de soi-disant notoriété. Bon, moi, je suis facilement reconnaissable, j'ai un peu un drapeau ambulant avec mon habit, mais même sans ça, vous n'êtes pas devenu un crack du jour au lendemain, ça n'a aucun sens. Vous êtes la même personne, personne ne serait jamais intéressé à ce que je faisais, ça aurait été presque aussi bien comme ça, sauf que brusquement, boum, vous êtes figure publique. Et puis ça s'est enchaîné, il y a eu d'autres choses, on m'a commencé à m'inviter à droite à gauche. J'ai demandé de nouveaux conseils à au fils de Kangur Rinpoché, qui m'a dit, pour l'instant, accepte tout. Conseil lourd de conséquences, parce que pendant 20 ans, ben, j'ai arrêté de faire le clown à droite à gauche.
Mais ça vous avait permis finalement d'utiliser ces droits d'auteur, voilà, pour votre association, comme vos photographies, puisque vous êtes photographe depuis très jeune, vous ont permis également de récupérer des fonds.
Oui, alors je ne peux pas dire que j'ai regretté, parce que je ne sais pas ce qui serait devenu de moi si j'étais resté 20 ans dans un ermitage ou dans une grotte, au lieu d'être ici à vous parler, mais l'un dans l'autre, je pense que ça avait du sens, notamment de mettre la compassion en action à travers des projets humanitaires. On a commencé par le donner au travers de la Fondation de France, et puis après on a fondé Karuna. Donc j'ai tout donné 100% depuis tout le départ. Ça s'est enchaîné avec d'autres livres, d'autres dialogues. On m'a invité à droite à gauche, le dialogue avec Trinh Quang Thuan. Ça serait bien de faire un dialogue entre la physique et le bouddhiste, ok. Après, bon, il y avait l'art du bonheur du Dalai Lama, et puis le livre sur l'altruisme, qui était un peu mon magnum, opus magnum, parce que j'ai passé 5 ans de recherche absolument acharnée, avec 1600 références scientifiques, pour essayer de faire une sorte de synthèse sur tout ce qui touche à l'altruisme. L'altruisme, c'est une question clé pour notre époque, c'est la réponse aux défis du 21e siècle, notamment le problème de l'environnement, c'est une affaire d'égoïsme ou d'altruisme. Si vous voulez, c'est l'idée que l'égoïsme ne peut résoudre aucun des défis du 21e siècle. C'est très frustrant d'être un scientifique de l'environnement aujourd'hui parce qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais les hommes politiques ne sont pas prêts à les suivre. Ou ils disent oui, mais du bout des lèvres, et ça ne fonctionne pas.
Et pourtant, vous l'avez vu au Tibet, puisque vous êtes allé plusieurs fois au Tibet, et vous avez vu cette évolution négative de ces glaciers qui fondent.
Ben c'est clair, sur 30 ans quasiment, je ne sais pas combien, en 85, ça fait bientôt 40 ans que j'étais au Tibet, on va dire l'Himalaya devient noir. Vous savez, le Tibet, c'est le troisième pôle. Il y a 2000 ou 3000 glaciers qui fondent plus vite que les deux autres pôles. Rien qu'au Népal, il y a 2000 lacs en tout genre, grands et petits, qui n'ont pas de nom parce qu'ils n'existaient pas il y a 30 ans, aux régions glaciaires. Donc, si vous voulez, c'est vraiment catastrophique. Hein. Et il faut dire que 25% de l'humanité est nourrie par les grands fleuves qui viennent du Tibet. Donc, tout ce système-là capote. Les conséquences sont terribles. Voilà, ben pourtant, on ne fait pas grand-chose, quoi, c'est ça.
Hey!
Une rencontre qui va aussi vous marquer, c'est celle avec le Dalai Lama. Quand est-ce que vous le rencontrez et qu'est-ce qu'il vous inspire ?
Ah oui, donc le Dalai Lama, en fait, aimait beaucoup mon deuxième maître, Diego Kensé Rinpoché, et il le considérait comme un de ses maîtres spirituels. Et donc j'ai pu rencontrer le Dalai Lama assez tard, finalement en 1980, donc pas mal d'années après avoir été en Inde. Et donc aussi dans son intimité, puisque toute la journée, ils étaient ensemble avec mon maître. Donc on n'était pas toujours là toute la journée, mais on venait le matin, des fois on restait un peu. Donc on est devenu assez proches, disons. C'était évidemment merveilleux de voir d'abord qu'ils rivalisaient d'humilité l'un avec l'autre, au lieu de rivaliser comme deux pontifes à qui ça serrait le plus haut, c'était à qui ça serrait le plus bas. Et puis en 1989, juste avant que le Dalai Lama aille recevoir le prix Nobel de la paix, il était à Paris, j'étais à Paris, et donc je suis allé le voir. Et puis il m'a dit, écoute, puisque tu es là, d'habitude je parle en tibétain ou en anglais, puis il y a quelqu'un qui traduit, si je parle en tibétain, je traduis en anglais, puis en français ça fait deux traductions. Donc tu es là, tu traduis pour moi. Je suis un interprète, donc j'ai servi d'interprète, on a été, il y a eu ce prix de la mémoire, on a été voir Jacques Chirac à la mairie, des choses comme ça. Et finalement, de fil en aiguille, je suis redevenu son interprète français, qui m'a permis de vivre dans son intimité plusieurs fois par an lorsqu'il venait en France, en Belgique, au Canada, français, etc.
Qu'est-ce qu'il dégage de particulier, le Dalai Lama ?
Effectivement, c'est un peu mystérieux. Comme disait Desmond Tutu, une fois, ils allaient tous les deux dans un grand stade aux États-Unis, à Seattle, pour parler de la compassion, etc. Et on leur dit dans la voiture qu'il y a 30 000 personnes qui les attendent. Alors Desmond Tutu se tourne vers le Dalai Lama et lui dit « Pas mal pour quelqu'un qui parle à peine anglais !» puisqu'il le plaisantait beaucoup. Si vous voulez, Dalai Lama, c'est la force de la qualité de la personne. C'est un cœur immense qui est immédiatement perçu comme cela. Et c'est ça que je trouve dans Dalai Lama, c'est cette cohérence incroyable. Il est exactement le même avec la personne qui nettoie dans le couloir à son hôtel. Je le vois, il le prend dans ses bras, il lui demande comment elle va. Que une heure plus tard avec un chef d'État. Il voit un être humain exactement pareil, c'est pas artificiel. C'est ce qu'il est, et ça c'est formidable, et c'est un bain de jouvence spirituel à chaque fois que je peux passer comme ça une semaine avec lui.
Mais comment va-t-il ?
Écoutez, il va bien, il ne voyage plus, il a 86 ans, mais il est très content parce qu'avec les moyens modernes, il pouvait faire des dialogues avec des personnes dans le monde entier. Et là, il commence à rencontrer des gens, et ça fait 3 ans donc je n'ai pas eu la merveilleuse opportunité de le voir, mais je pense que je vais avoir l'occasion au mois d'octobre, une rencontre avec des scientifiques, justement. Donc, je m'en réjouis beaucoup de cela. Mais il va bien, en gros. Bon, il a mal au genou. Alors, il disait au début, j'ai mal à un genou. L'autre genou était jaloux, maintenant j'ai mal aux deux genoux. Et il dit, maintenant, ça prouve scientifiquement que le Dalai Lama n'a pas de pouvoir de guérison. Sinon, j'aurais commencé par mes genoux.
Il a toujours essayé de demander, en tout cas au gouvernement chinois, la possibilité de considérer le Tibet comme une entité autonome et pas de revendiquer une quelconque indépendance. Et ça n'a jamais été entendu. Il y a une souffrance énorme.
Ben oui, ça fait 60 ans qu'ils sont occupés. Là, en ce moment, ça s'aggrave, parce que ça s'aggrave partout en Chine, hein, c'est pas que le Tibet. Hein. Ce que dit Dalai Lama, c'est pas la question du retour du Dalai Lama au Tibet, ça n'a pas d'importance. C'est le sort de 6 millions de Tibétains, de la culture bouddhiste tibétaine. Il dit même pas de la religion, de la culture bouddhiste, qui est une non-violence.
La préservation.
Non-violence vis-à-vis des êtres humains, des animaux, de l'environnement. Il y a toute une culture qui est précieuse et qui, comme il dit, fait partie non pas de l'héritage de 6 millions de Tibétains, mais de l'héritage mondial. On voit bien avec la richesse philosophique et autres, que c'est pas seulement, ça ne concerne pas simplement 6 millions de Tibétains.
Aujourd'hui, c'est son anniversaire, l'anniversaire du Dalai Lama. Nous sommes le 6 juillet.
Ah, mais oui, tout à fait. Ben, écoutez, je souhaite plein de bonnes choses. Alors, il avait dit, l'année dernière, il m'avait demandé de faire une petite vidéo, tous ses disciples et moi en tant qu'interprète. Et donc, comme il avait dit qu'il espérait vivre 113 ans. Alors, j'ai fait une petite vidéo en disant, à votre sainteté, veuillez prier pour que quand vous aurez 113 ans, je sois encore là pour vous souhaiter bon anniversaire.
«
Mathieu Ricard, le Dalaï Lama prône aussi le dialogue interreligieux.
Le Dalaï Lama, lui, très clairement, a dit qu'il pensait qu'il avait trois missions. Pas du tout de répandre le bouddhisme. Il dit, le bouddhisme ne fait pas de prosélytisme. Il dit souvent, je ne suis pas venu faire un ou deux bouddhistes de plus. Mais il dit, il y a trois choses. Promouvoir l'harmonie entre les religions, promouvoir ce qu'on appelle une éthique universelle ou séculière, c'est basé sur la bienveillance, qui est, on pourrait dire, au-delà des religions ou qui est le socle de toutes les religions. Si on s'attendait sur la bienveillance et l'amour du prochain, déjà, les choses iraient mieux. La règle d'or, hein. Ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas que tu fasses à toi-même, ça réglerait beaucoup de questions. Et il parlait aussi du dialogue avec la science et de préserver donc, l'héritage bouddhiste, la culture bouddhiste tibétaine. Donc ça, c'est au centre de ses préoccupations. Et il dit souvent qu'il y a quatre manières de promouvoir l'harmonie entre les religions. D'abord, des rencontres entre des contemplatifs, des gens qui vivent leur religion, qui échangent sur leur pratique spirituelle. Par exemple, quand nous sommes allés avec le Dalaï Lama à la Grande Chartreuse, il a été à Montserrat, il a rencontré des ermites, il a rencontré dans toutes les religions, des pratiquants, des gens qui sont en retraite, des ermites, etc. La deuxième chose, c'est des rencontres entre théologiens. Alors, là où il compare, avec ouverture d'esprit, les différents points de vue métaphysiques, pour ne pas avoir des idées fausses. Donc, clarifier les choses, sur le plan philosophique, métaphysique. Troisièmement, des grandes rencontres entre grands chefs religieux, comme il y a eu à Assise. Il avait beaucoup apprécié la rencontre d'Assise, où il y avait toutes les religions. Il y en a eu d'autres plus tard, mais seulement avec la religion du livre. C'est un peu dommage, parce que là, il y avait le bouddhisme, il y avait le jaïnisme, il y avait tout le monde. Ça, c'est très important pour que ces chefs religieux se connaissent et qu'en cas de crise, ils puissent s'appeler les uns les autres et essayer de résoudre ensemble les problèmes. La quatrième, il dit, c'est de faire des pèlerinages ensemble, d'aller à la Mecque, si c'est possible, là, ça n'a pas été le cas encore, d'aller au mur des Lamentations à Jérusalem. Le Dalaï Lama a été à Lourdes, il a été à Fatima, il a été à la Kumbh Mela en Inde. Il dit, parce que quand on va en pèlerinage, on abandonne nos préjugés, on va pour se relier à quelque chose qui vous inspire et on y va avec des bons sentiments, on n'y va pas rempli de haine, etc. De faire en sorte, comme il dit, que les religions ne deviennent pas des drapeaux de ralliement pour se séparer, mais qu'on reconnaisse les différentes métaphysiques et qu'on s'accorde sur les points communs, qui est l'amour du prochain. Et donc, qu'il appelle la pluralité des vérités uniques. Il y a des dispositions diverses. Les différentes religions correspondent à ces dispositions diverses, et c'est une erreur de dire qu'il y en a une qui est bonne et toutes les autres sont mauvaises.
Mathieu Ricard, vous avez été aussi un photographe. C'est aussi, là encore, pour préserver un héritage, pour montrer le beau.
Alors, il y a toutes sortes de choses. Là, il y a à la fois l'héritage culturel. Donc ça, ce n'est pas les photos que j'utilise dans mes livres, mais c'est parfois un petit peu. C'est tous les 40 000 photos sur l'art tibétain, les fresques, les peintures, les statues, etc. Puis il y a aussi le témoignage de ce que c'était ces grands maîtres spirituels, du monde qui les entourait. Qu'est-ce que c'est de retourner au Tibet après mon maître retourné après 30 ans d'exil, vous avez 1000 cavaliers, c'est quand même pas mal pour la photo. Donc, il y a tout cet aspect himalayen. Donc j'ai fait la plupart de mes livres sont sur l'Himalaya, sur la vie des maîtres, sur le monde qui les entoure. Et puis après j'ai un peu débordé de l'Himalaya. Il y a beaucoup de choses sur la souffrance, la misère, l'exploitation. On tombe dans le syndrome du mauvais monde. On perd confiance dans la nature humaine. Donc je dis il faut quand même montrer la beauté chez l'être humain.
Un reporter de paix, vous dites.
Voilà, reporter de paix. Nelson Mandela disait, même à propos de ces geôliers, allez au fond, vous trouvez toujours quelque chose de bon. L'idée que, voilà, il y a une pépite d'or chez les êtres humains, il faut la faire venir à la surface, il faut l'encourager. Donc montrons ça, parce qu'on montre trop le contraire, le côté négatif. Dès qu'il se passe une horreur quelque part, ça fait la une des journaux. Et en fait, la banalité du bien, c'est que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de façon décente les uns envers les autres, mais ça ne fait pas de bruit. Donc je voulais montrer cet aspect. C'est ce potentiel de l'être humain et aussi l'émerveillement devant la part sauvage du monde parce que c'est une manière d'émerveiller ce qui vous émerveille en voyant un grand paysage en Islande ou au Yukon ou en Patagonie ou ailleurs. C'est tellement beau, forcément l'émerveillement m'a dit de respecter, on n'a pas envie de détruire ce qui vous émerveille, que ce soit des animaux ou des forêts. Et du coup, si vous le respectez, vous êtes concerné par le sort de cette nature et du coup, vous menez à l'action. Donc, c'est à mon humble niveau une contribution à la prise de conscience qu'il faut préserver notre environnement, la biodiversité, les 8 millions d'espèces animales qui sont nos concitoyens en ce monde, et donc inspirer de manière constructive au lieu de... Malheureusement, on a tellement de mauvaises nouvelles sur la crise environnementale qu'on est un peu écrasé par ces mauvaises nouvelles. À mon humble niveau, donc là j'ai une exposition à la Grande Arche de la Défense à Paris sur Hymne à la beauté, donc la beauté spirituelle, c'est les maîtres spirituels, la beauté humaine, c'est qu'un bon être humain, la beauté de la part sauvage du monde, c'est la nature, et la beauté de l'altruisme, c'est nos projets humanitaires de Karuna Sechen. Moi, à 76 ans, je me retire un peu, mais je ne fais plus au jour le jour, je monte mon nez de temps en temps, mais il y a une magnifique équipe, et heureusement, en dépit du fait que je suis moins actif, Karuna continue à prospérer et je suis très heureux que les projets de Karuna soient appréciés pour ce qu'ils sont et non pas parce que le petit moine est derrière et qu'on l'aime bien et qu'on va aider à cause de ça. Maintenant, les gens contribuent parce que Karuna fait du beau travail.
Mathieu Ricard, vous êtes aujourd'hui en Dordogne. L'Himalaya vous manque ?
Oui, bien sûr, c'est un point de vue. Je suis très heureux d'être auprès de ma maman et de la servir. Et j'ai beaucoup d'amis merveilleux ici, des traducteurs, des fils de Kanjo Rinpoche sont ici. Bon, idéalement, si j'ai le choix, finir mes jours dans mon petit ermitage de 9 mètres carrés face à l'Himalaya, ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Donc si je surviens à ma maman, ce qui n'est pas sûr, hein, comme... Les vieux modèles, ça tient le coup. Elle a 99 ans maintenant. Je pense qu'effectivement, j'irai tranquillement quelque part dans un petit ermitage.
Merci beaucoup, Mathieu Ricard.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode de Religion du Monde en compagnie du moine bouddhiste Mathieu Ricard qui a généreusement partagé avec nous ce chant tibétain. Entretien en Dordogne par Véronique Guémard, réalisation Guillaume Buffet. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr, en podcast, sur Twitter et Facebook. À la semaine prochaine. Om tari tu tari.